Le mariage fut décidé. Ginevra demeura quelques semaines encore à Tivoli. Et moi, j'allais souvent à Tivoli en tramway. J'y passais une demi-journée, j'y passais une heure ou deux. J'étais content de la savoir loin de Rome. Ma constante appréhension était qu'un de mes collègues de bureau n'arrivât à découvrir mon secret. J'usais d'une quantité de précautions, de subterfuges, de prétextes, de menteries pour dissimuler ce que j'avais fait, ce que je faisais, ce que j'allais faire. J'avais déserté les lieux où nous nous retrouvions d'habitude. Je répondais évasivement à toutes les questions. Je me sauvais dans une boutique, sous une porte cochère, par une rue transversale, dès que je reconnaissais de loin quelqu'un de mes anciens commensaux. Mais un jour, je ne pus pas esquiver Filippo d'Oberti. Il me rattrapa, m'arrêta, ou plutôt m'empoigna. « Hé, comme il y a longtemps qu'on t'a vu, Episcopo, qu'as-tu donc fait? T'as été malade ?» Je ne parvenais point à vaincre mon agitation involontaire, je répondis sans réfléchir. « Oui, j'ai été malade. » « Bon, je la vois, tu es vert, mais quelle vie mènes-tu maintenant? Où manges-tu, où passes-tu tes soirées ?» Je répondis par un second mensonge, en évitant de le regarder au visage. « Pour causer de toi, l'autre nuit, reprit-il. C'était Frati qui racontait avoir vu dans la rue Alexandrina, bras dessous avec un ivrogne. »« Avec un ivrogne, fis-je, mais Frati rêve. » D'Oberti éclata de rire. « Aussi que tu rougis. Décidément, tu recherches toujours la belle compagnie, toi. Et à propos, tu as des nouvelles de Vanzer ?»« Non, je ne sais rien. »« Comment, tu sais pas qui est à Buenos Aires ?»« Non, je ne sais rien. »« Mon pauvre Episcopo, et adieu, je te quitte. »« Soigne-toi bien, soigne-toi, tu sais. »« Je te vois très bas, extrêmement bas. Allez, adieu !» Il tourna par une autre rue en me laissant dans une agitation que je ne parvenais pas à maîtriser. Toutes les paroles de la soirée lointaine où il avait parlé de la bouche de Ginevra me revinrent à la mémoire, toutes précises, vibrantes. Il me revint aussi à la mémoire d'autres paroles, plus crues, plus brutales. Et je revis, dans la salle éclairée au gaz, la longue table autour de laquelle étaient assis ces hommes repus, allumés par le vin, un peu engourdis, de connivence dans une même préoccupation obscène. J'entendis encore les rires, le vacarme, mon nom cité par, crié par Vanzer, acclamé par les autres, et enfin le mot atroce, Meso Episcopo et compagnie. Et je pensais que cette horrible chose aurait pu devenir une réalité. Une réalité, une réalité. Mais une pareille ignominie est donc possible. Mais il est donc possible qu'un homme, qui du moins en apparence n'est ni un fou, ni un idiot, ni un insensé, se laisse entraîner à une pareille ignominie. Ginevra revint à Rome, et le jour du mariage fut fixé. Dans un fiacre avec la courtière, nous fîmes le tour de Rome pour chercher un petit appartement, pour acheter un lit nuptial, pour acheter divers meubles indispensables, pour faire en un mot tous les préparatifs ordinaires. J'avais retiré un dépôt d'une quinzaine de mille francs qui constituait toute ma fortune d'orphelin. Donc, dans un fiacre, nous fîmes triomphalement le tour de Rome. Moi, anéanti sur le strapontin, et les deux femmes assises en face de moi, les genoux contre mes genoux. Qui ne rencontrâmes-nous point ? Tout le monde nous reconnut. 20 fois, malgré ma tête baissée, j'aperçus du coin de l'œil quelqu'un qui, sur le trottoir, faisait des gestes vers nous. Ginevra s'égayait, se penchait, se retournait, disait chaque fois « Regarde, Questori. Regarde, Micheli. Regarde Palumbo avec Doverty. Ce fiacre est un pilori pour moi. Et la nouvelle courut. Et ce fut pour mes collègues du bureau, pour mes anciens commensaux, pour toutes mes connaissances, un sujet d'allégresse sans fin. Oh, je disais dans tous les regards l'ironie, la dérision, l'hilarité maligne, parfois aussi une sorte de compassion insultante. Personne ne m'épargnait son offense. Et moi, pour faire quelque chose, je souriais à chaque offense, avec une contraction toujours pareille, comme un impeccable automate. Avais-je autre chose à faire? Devais-je me fâcher, me mettre en colère, devenir menaçant, me livrer à la violence, donner un soufflet, lancer un encrier, brandir une chaise, me battre en duel? Mais tout cela, monsieur, n'aurait pas encore été ridicule. Un jour, au bureau, deux garçons d'esprit contrefirent une interrogatoire. Le dialogue s'engageait entre un juge et Giovanni Episcopo. À la question du juge, « Votre profession ?» Giovanni Episcopo répondait, « Homme à qui on manque de respect. » Un autre jour, mon oreille surprit ces mots. Il n'a pas de sang dans les veines, pas une goutte de sang. Le peu qu'il en avait, Giulio Vazer le lui a tiré par le front. Positivement, il est visible qu'il ne lui en reste plus une goutte. C'était la vérité. C'était la vérité. Comment advint-il que tout d'un coup je pris la résolution d'écrire à Ginevra pour me dégager de ma promesse? Oui, j'écrivis à Ginevra pour rompre le mariage. J'écrivis moi-même, de la main que voici. Je portais moi-même la lettre à la poste. C'était le soir, je m'en souviens. Je passais et repassais devant la poste, ému comme un homme qui est sur le point de se résoudre au suicide. Enfin, je m'arrêtai et je mis la lettre à l'ouverture de la boîte. Mais il me sembla que mes doigts ne pouvaient point s'ouvrir. Combien de temps restais-je dans cette attitude? Je l'ignore. Un sergent de ville me demanda en me touchant l'épaule. Que faites-vous? J'écartai les doigts, je laissai tomber la lettre. Et peu s'en fallut que je ne défaillisse dans les bras du sergent de ville. « Dites, balbutiai-je avec des larmes dans la voix, que faut-il faire pour la ravoir ?» Et la nuit, les angoisses de la nuit, et le matin d'après, la visite au nouvel appartement, à l'appartement conjugal, déjà préparé pour recevoir les époux, est devenue subitement inutile devant un appartement mort. Oh, ce soleil! Ces rétranchants de soleil sur tout ce mobilier neuf, luisant intact, qui exhalait une odeur de magasin, une odeur intolérable. L'après-midi, vers les 5 heures, en sortant du bureau, je rencontrai dans la rue Battista qui me dit « On demande à la maison, tout de suite !» Nous nous acheminâmes, je tremblais comme un malfaiteur capturé. Un moment, pour me préparer, je demandai à Battista « Que peut-on vouloir ?» Battista ne savait rien. Il haussa les épaules. Lorsque nous fûmes arrivés à la porte, il me quitta. Je montai l'escalier très lentement, avec le regret d'avoir obéi, en songeant aux mains de la courtière, à ses terribles mains, qui me donnait une peur folle. Et quand je levai les yeux vers le palier, quand je vis la porte ouverte et sur le seuil, la courtière prête à bondir, je dis en hâte, « Oh, c'était une plaisanterie, c'était une simple plaisanterie !» Et la semaine suivante, on célébra le mariage. Mes témoins furent Enrico Efrati et Filippo Doverti. Ginevra et sa mère voulurent qu'on invitât au dîner le plus grand nombre possible de mes collègues, pour éblouir la canaille de la rue Montanara et ses environs. Aucun de mes commensaux de la pension, je crois, ne manquait. J'ai un souvenir brouillé, vague et interrompu par la cérémonie de la noce, de cette foule, de ces voix, de ces rumeurs. À un certain moment, il me sembla qu'il passait sur la table quelque chose d'analogue, le souffle ardent et impur qui jadis passait sur l'autre table. Ginevra avait la figure en feu et les yeux d'un éclat extraordinaire. Autour d'elle luisaient beaucoup d'autres yeux et beaucoup d'autres sourires. J'ai le souvenir d'une sorte de tristesse lourde qui s'abattit sur moi, m'envahit, m'obscurcit la conscience. Je vois encore là-bas, au bout de la table, tout au bout, dans un incroyable éloignement, ce pauvre Batista qui buvait, 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 une semaine au moins, oh je ne dis pas un an, un mois, mais au moins une semaine, au moins la première semaine. Non, rien, sans miséricorde. Elle n'attendit pas seulement un jour. Tout de suite, la nuit même des noces, elle commença son œuvre de bourreau. Quand je vivrais un siècle, je ne pourrais pas oublier cet éclat de rire imprévu qui, dans l'obscurité de la chambre, me glaça, humilia ma timidité et ma balourdise. Dans les ténèbres, je ne voyais point son visage. Mais pour la première fois, je sentis toute la méchanceté dans ce rire mordant, railleur, impudique, jamais entendu, non reconnaissable. Je sentis qu'une créature venimeuse respirait à mon côté. Oh, monsieur, mais elle avait le rire dans les dents comme les vipères y ont le venin. Rien, rien n'eut le pouvoir de la pitoyer. Ni ma muette soumission, ni ma muette adoration, ni ma douleur, ni mes larmes, rien. J'essayais tout pour lui toucher le cœur, inutilement. Quelquefois, elle m'écoutait, sérieuse, avec des yeux graves, comme s'il eût été sur le point de comprendre. Et puis tout d'un coup, elle se mettait à rire, de ce rire épouvantable, de ce rire inhumain qui luisait plus à ses dents qu'à ses yeux. Et moi, je restais anéanti. Non, 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 je ne puis pas. Oh, permettez-moi, monsieur, de ne rien dire. Permettez-moi de passer outre. Je ne puis pas vous parler d'elle. C'est comme si vous me forciez à mâcher une chose amère, d'une amertume intolérable et mortelle. Ne voyez-vous pas comme ma bouche tord pendant que je parle? Un mois, deux mois environ après le mariage, elle eut en ma présence un trouble, une espèce de défaillance. Vous savez, la scène ordinaire. Et moi, qui tremblant d'espoir, attendais un secret, cette révélation, cet indice, cet accomplissement de mon vœu suprême, cette immense joie dans ma détresse, je tombais à genoux comme devant un miracle. Était-ce vrai? Était-ce vrai? Oui, elle me le déclara, me le confirma. Elle portait en elle une seconde vie. Vous ne pouvez pas comprendre. Même si vous étiez père, vous ne pourriez pas comprendre l'émotion extraordinaire qui s'empara de toute mon âme. Figurez-vous, monsieur, figurez-vous un homme qui a souffert tout ce qui est possible de souffrir sous le ciel. Un homme sur qui s'est acharné, sans une minute de répit, toute la férocité des autres hommes. Un homme qui n'a jamais été aimé de personne, et qui a pourtant au fond de son être des trésors de tendresse et de bonté, des trésors à répandre, inépuisables. Figurez-vous, monsieur, l'espérance de cet homme qui attend une créature de son sang, un fils, un petit être délicat et doux, oh, d'une douceur infinie dont il pourra se faire aimer. Se faire aimer, comprenez-vous, se faire aimer. C'était en septembre, je me le rappelle. C'était une de ces journées calmes, dorées, un peu mélancoliques. Vous savez bien quand l'été se meurt. Toujours, toujours, je rêvais de lui, de Ciro, inévitablement. Un dimanche, au Pincio, nous rencontrâmes Doberti et Questori. Tous deux firent grande fête à Ginevra et se joignirent à nous pour la promenade. Ginevra et Doberti prirent les devants. Questori et moi, nous restâmes en arrière. Mais on aurait dit que chaque pas du couple qui nous précédait me piétinait le cœur. Ils parlaient avec animation, ils riaient ensemble. Et les gens se retournaient pour les regarder. Leurs paroles m'arrivaient indistinctes parmi les flots de la musique, quoique je tendisse l'oreille pour en saisir au vol quelques-unes. Mon chagrin était si visible que Questori les rappela en disant « Allez, pas si vite, pas si vite. Ne vous éloignez pas tant, et puisqu'on va crever de jalousie. » Ils plaisantèrent, se moquèrent de moi. Doberti et Ginevra continuèrent de marcher en avant, de rire et de causer au milieu du fracas de la musique qui peut-être les exaltait, les enivrait. Et moi, je me sentais si malheureux que passant le long du parapet, j'eus la pensée folle de me précipiter en bas d'un élan brusque pour couper court instantanément à cette souffrance. Il y eut un moment où Questori lui-même se tut. Je m'aperçus que ses regards attentifs suivaient la silhouette de Ginevra que le désir le troublait. D'autres hommes qui venaient à notre rencontre se retournèrent deux ou trois fois pour la regarder, et ils avaient dans les yeux le même éclat. C'était toujours la même chose quand elle passait à travers la foule comme en un sillon d'impureté. Il me sembla qu'autour de nous cette impureté souillait toute l'atmosphère. Il me sembla que tout le monde convoitait cette femme et jugeait facile de l'obtenir et avait la même image obscène fichée dans le cerveau. La musique élargissait ses ondes dans une lumière intense. Toutes les feuilles des arbres miroitaient et les roues des voitures faisaient à mes oreilles un bruit assourdissant. Et au milieu de cette lumière, de ce brouhaha, de cette foule, au milieu de ce spectacle confus, à l'aspect de cette femme qui, en ma présence, se laissait enjôler petit à petit par cet homme, envahie par la sensation que l'impureté m'enveloppait de toutes parts, je pensais avec une terrible crise d'angoisse, avec une convulsion de tout ce que j'avais de fibres tendres, je pensais à la petite créature qui commençait à vivre au petit être informe qui pâtissait peut-être en ce moment des émotions de cette chair où il commençait à vivre. Mon Dieu, comme cette pensée me fit souffrir. Que de fois cette pensée me tortura avant sa naissance. Comprenez-vous la pensée de la souillure? Comprenez-vous, l'infidélité, la faute m'affligeait moins pour moi-même que pour le fils qui n'était pas né encore. Il me semblait que quelque chose de cette honte, de cette vilenie, devait s'attacher à lui, devait le salir. Mais comprenez-vous mon horreur? Et un jour, j'eus le courage inouï. Un jour que mes soupçons me tourmentaient plus cruellement, j'eus le courage de parler. Gina était à la fenêtre. Oh, je me rappelle, c'était le jour de la Toussaint. Les cloches tintaient. Le soleil frappait sur la pluie. En vérité, le soleil est la plus triste chose qu'il y ait au monde. N'est-ce pas votre avis? Le soleil m'a toujours mis de la souffrance au cœur. Dans tous mes souvenirs les plus douloureux, il y a un peu de soleil, une raie jaune, comme autour des draps mortuaires. Lorsque j'étais enfant, on me laissa seul quelques minutes dans la chambre où gisait le cadavre d'une sœur à moi, exposée sur un lit parmi les couronnes de fleurs. Et il me semble que je le vois encore, ce pauvre visage blême, tout creusé d'ombre bleuâtre, auquel devait plus tard, dans les derniers moments, ressemblait si fort le visage de Chiro. Ah, où en étais-je? Ah oui, ma sœur gisait sur le lit parmi les couronnes. Bien, c'est cela que je disais, mais où voulais-je en venir? Laissez-moi réfléchir un peu. Ah, voici. Je m'approchais de la fenêtre, saisi d'effroi. C'était une petite fenêtre qui s'ouvrait sur une cour. La maison d'en face semblait inhabitée et on n'y entendait aucune voix humaine. Le calme était complet. Mais sur le toit, des multitudes de moineaux faisaient un ramage navrant, continu, sans fin. Et sous le toit, sous la gouttière, sur le mur gris, dans l'ombre grise, une bande de soleil, une raie jaune, rigide, aveuglante, rayonnait sinistrement avec une incroyable intensité. Je n'osais plus me retourner. Je regardais fixement la raie jaune comme pris de fascination. Et derrière moi, je sentais, comprenez-vous, tandis que mes oreilles étaient pleines de l'immense ramage, je sentais derrière moi le silence épouvantable de la chambre, ce silence glacé qui règne autour des cadavres. Ah, monsieur, combien de fois j'ai revu dans ma vie la tragique bande de soleil, combien de fois! Mais de quoi s'agissait-il? Ah, je disais donc que Ginevra était à la fenêtre. Les cloches tintaient, le soleil entrait dans la chambre. Il y avait aussi sur une chaise une couronne d'immortelles garnie d'un ruban noir que Ginevra et sa mère devaient porter au Campo Verano sur la tombe d'un parent. Quelle mémoire, pensez-vous? Oui, maintenant, j'ai une mémoire terrible. Écoutez, elle mangeait un fruit avec cette sensualité provocante qu'elle mettait dans tous ses actes. Elle ne faisait nulle attention à moi, ne s'apercevait ni que j'étais là, ni que je la regardais. Jamais sa profonde insouciance ne m'avait affligé comme en ce jour. Jamais je n'avais compris avec autant de clarté qu'elle ne m'appartenait point, qu'elle était à la disposition des premiers venus, qu'inévitablement elle se donnerait aux premiers venus, et que jamais, moi, je ne saurais faire valoir ni le droit de l'amour, ni le droit de la force. Et je la regardais. Ne vous arrive-t-il point, regardant longuement une femme, de perdre soudain toute notion de son humanité, de son état social, des liens de cœur qui vous attachent à elle, et de voir, avec une évidence qui vous atterre, la bête, la femelle, la brutalité nue du sexe. Et c'est ce que je vis en la regardant. Et je compris qu'elle n'était apte qu'à une œuvre charnelle, à une ignoble fonction. Et une autre vérité hideuse se présenta encore à mon esprit. Le fond de l'existence humaine, le fond de toutes les préoccupations humaines, c'est une laideur. Hideuse, hideuse vérité. Dites, que pouvais-je y faire? Rien. Mais cette femme portait dans ses entrailles une autre vie. Elle nourrissait de son sang la créature mystérieuse où s'incarnait mon rêve continuel, ma suprême espérance, mon adoration. Oui, avant qu'il ait vu la lumière, je l'ai adoré. J'ai pleuré pour lui de tendresse. Je lui ai dit dans mon cœur des paroles indicibles. Pensez, monsieur, pensez à ce martyr. Ne pouvoir séparer d'une image ignoble une image innocente. Savoir que l'objet de votre adoration idéale est lié à un être dont vous redoutez les infamies, qu'éprouverait un dévot s'il était forcé de voir sur l'autel le sacrement couvert d'une loque immonde, qu'éprouverait-il s'il lui était interdit de baiser la substance divine autrement qu'à travers un voile souillé? Je ne sais pas m'exprimer. Nos paroles, nos actes restent toujours vulgaires, stupides, insignifiants, quelle que soit la grandeur des sentiments qui les inspirent. Et ce jour-là, je portais en moi-même une immensité de choses douloureuses, comprimées, qui se confondaient. Et le tout n'aboutit qu'à un petit dialogue cynique, à une scène ridicule, à une lâcheté. Voulez-vous le fait? Voulez-vous le dialogue? Les voici. Elle était donc à la fenêtre et je m'approchais d'elle. Je restai un instant silencieux. Puis, avec un énorme effort, je lui saisis la main et lui demandai « Ginevra, m'as-tu déjà trompé ?» Elle me regarda, stupéfaite, et répondit « Trompé? Que veux-tu dire ?» Je lui demandai « As-tu déjà pris un amant, peut-être d'Oberti ?» Elle me regarda encore, parce que je tremblais horriblement de tous mes membres. « Mais quelle scène me fais-tu là? Qu'est-ce qui te prend à cette heure? Es-tu fou ?»« Réponds, Ginevra. »« Mais es-tu fou ?» Et tandis que je cherchais à lui ressaisir la main, elle me cria en se dérobant « Ne m'ennuie plus, en voilà assez !» Mais moi, comme un homme en démence, je me jetai à genoux, je la retins par le bord de sa robe. « Oh, je t'en prie, je t'en supplie, Ginevra. Aie pitié, un peu de pitié. Attends-moi la naissance de la pauvre créature, de mon pauvre enfant. C'est mon enfant, n'est-ce pas? Attends sa naissance. Après, tu verras tout ce que tu voudras. Je me tairai, je supporterai tout. Quand ils viendront, tes amants, je m'en irai. Si tu me le commandes, je me mettrai à cirer leurs chaussures dans l'autre chambre. Je serai ton domestique, je serai leur domestique, je supporterai tout. Mais attends, attends, donne-moi d'abord mon fils, aie pitié. » Rien, rien. Dans son regard, il n'y avait qu'une curiosité presque gaie. Elle répétait en reculant, « Mais es-tu fou? Es-tu fou ?» Puis, comme je poursuivais mes supplications, elle me tourna les épaules, sortit, ferma la porte derrière elle, me laissa là, agenouillée sur le plancher. Sur le plancher, il y avait du soleil. Et sur la chaise, il y avait cette couronne mortuaire. Et mes sanglots ne changeaient rien à la fatalité des choses. Mais pouvons-nous jamais changer rien aux choses? Quel poids pèsent nos larmes? Chaque homme n'est qu'un homme quelconque, à qui il arrive une chose quelconque. Voilà tout, et il n'y a rien de plus. Amen. Nous sommes là, mon cher monsieur, moi de raconter et vous d'écouter. En somme, j'ai divagué un peu. J'ai divagué un peu trop, peut-être. Car vous le savez bien, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le point est ailleurs. Pour arriver au point, il y a 10 ans à passer. 10 ans, 10 siècles de douleur, de misère, d'ignominie. Et cependant, le mal n'était pas encore fait sans remède. La nuit où j'entendis les hurlements de cette femme en couche, hurlements qui n'avaient rien d'humain, hurlements de bête à l'abattoir, je pensais avec une convulsion de tout mon être, « Oh, si elle mourait, oh, si elle mourait en me laissant mon fils vivant !» Elle hurlait d'une manière si effroyable que je pensais, « Mais quand on hurle comme cela, on ne peut pas ne point mourir. » Oui, j'eus cette pensée, j'eus cette espérance. Mais elle ne mourut pas. Elle survécut pour la damnation de mon fils et la mienne. Mon fils, c'était vraiment mon fils, le fils de mon sang. Il avait sur l'épaule gauche le même signe particulier que je porte depuis ma naissance. Et je bénis Dieu pour ce signe qui m'a permis de reconnaître mon fils. Vous raconterai-je maintenant notre martyre de 10 années? Vous dirai-je encore tout? Non, cela est impossible. Je ne parviendrai jamais à finir. Et puis peut-être ne me croiriez-vous pas. car ce que nous avons souffert est incroyable. En peu de mots, voici les faits. Ma maison devint un mauvais lieu. Quelquefois, je me rencontrais sur ma porte avec des hommes inconnus. Je n'arrivais pas à faire ce que j'avais dit. Je ne cirais pas leurs chaussures dans la chambre voisine. Mais, en ma propre maison, je ne fus bientôt plus qu'une espèce de domestique inférieur. Batista lui-même était moins malheureux que moi, moins humilié. Aucune humiliation ne sera jamais rien en comparaison de la mienne. Jésus aurait pleuré sur moi toutes ses larmes. Car entre tous les hommes, je suis celui qui a touché le fond, le dernier fond de l'humiliation. Vous entendez ? Batista, le misérable Batista, pouvait me prendre en pitié. Et dans les premières années, tandis que Ciro ne comprit pas encore, ce ne fut rien. Mais lorsque je m'aperçus que son intelligence s'éveillait, lorsque je m'aperçus qu'en cet être débile et frêle, l'intelligence se développait avec une prodigieuse rapidité, lorsque j'entendis sortir de ses lèvres la première question cruelle, oh alors, je me vis perdu. Comment faire? Comment lui cacher la vérité? Quelle ressource dans cette détresse? Je me vis perdu. Sa mère n'avait aucun soin de lui. Elle l'oubliait durant des jours entiers. Elle le laissait parfois manquer du nécessaire, parfois même elle le battait. Et moi, j'étais contraint de m'absenter pendant de longues heures. Je ne pouvais l'entourer continuellement de ma tendresse protectrice. Je ne pouvais lui rendre la vie aussi douce que je l'aurais rêvé, que je l'aurais voulu. La pauvre créature passait presque tout son temps dans la cuisine, en compagnie d'une servante. Je le mis à l'école. Le matin, c'était moi qui le conduisais. L'après-midi, sur les 5 heures, j'allais le reprendre, et ensuite je ne le quittais plus, tant qu'il n'était pas endormi. Très vite, il sut lire, écrire. Il distança tous ses camarades. Il fit des progrès étonnants. L'intelligence brillait dans ses yeux. Quand il me regardait de ses grands yeux noirs qui lui illuminaient le visage, des yeux profonds et mélancoliques, j'éprouvais quelquefois une sorte d'inquiétude intérieure et je ne pouvais pas soutenir longtemps son regard. Oh, quelquefois, le soir à table, quand la mère était là et que le silence s'apesantissait sur nous, toute mon angoisse muette se reflétait dans ses yeux purs. Mais les jours vraiment terribles étaient encore à venir. Ma honte était trop publique. Le scandale était trop grave. Madame Episcopo était trop perdue de réputation. D'autre part, je négligeais mon travail de bureau. Je commettais de fréquentes erreurs dans les pièces. Et certains jours, le poignet me tremblait si fort que je ne pouvais pas écrire. Mes collègues et mes supérieurs me tenaient pour un homme déshonoré, dégradé, abruti, abêti, ignoble. On me donna 2 ou 3 avertissements. Puis on me suspendit de mes fonctions. Et finalement, on me destitua au nom de la morale outragée. Jusqu'alors, j'avais du moins représenté la valeur de mes appointements. Mais depuis ce jour, je ne valais pas même une guenille, pas même une pelure jetée dans la rue. Rien ne peut vous donner l'idée de la férocité, de l'acharnement que ma femme et ma belle-mère mirent à me torturer. Et pourtant, elles m'avaient pris les quelques milliers de francs que j'avais de reste. Et la courtière avait ouvert à mes dépens une boutique de mercerie. Et ce petit commerce faisait encore vivre la famille. On me considéra comme un odieux mange-pain, et on me mit au même niveau que Batista. À mon tour, il m'arriva la nuit de trouver porte close. À mon tour, j'endurais la faim. Je me pliais à tous les métiers, à toutes les fatigues, aux plus humbles et aux plus méprisables besognes. Je me démenais du matin au soir pour attraper un sou. Je fis le copiste, je fis le saute-ruisseau, je fis le souffleur dans une troupe d'opérette, je fis l'huissier au bureau d'un journal, je fis le commis dans une agence matrimoniale, je fis tout ce dont le hasard m'offrit l'occasion. Je me frottais à toutes sortes de gens, je récoltais toutes sortes d'avanies, je courbais le cou sous tous les jougs. Et maintenant, dites-moi, après les interminables journées d'un pareil labeur, ne méritais-je pas bien un peu de repos, un peu d'oubli? Le soir, quand je pouvais, dès que Ciro avait fermé les yeux, je sortais de chez moi. Baptista m'attendait dans la rue et nous allions ensemble boire au cabaret. Du repos, de l'oubli. Qui a jamais compris le sens de l'expression noyer sa tristesse dans le vin? Ah, monsieur, si j'ai toujours bu, c'est parce que j'ai toujours senti se rallumer en moi la soif inextinguible. Mais le vin ne m'a jamais procuré une seconde de jouissance. Nous nous asseyions l'un en face de l'autre et nous n'avions pas envie de parler. D'ailleurs, là-dedans, personne ne disait rien. Êtes-vous jamais entré dans un de ces cabarets silencieux? Les buveurs s'isolent, ils ont la figure lasse, ils soutiennent leurs tempes avec la paume de la main. Devant eux, il y a un verre et leurs yeux fixent le verre, mais peut-être ne le voient pas. Est-ce du vin, est-ce du sang? Oui, monsieur, c'est l'un et l'autre. Baptista était devenu presque aveugle. Une nuit que nous cheminions ensemble, il s'arrêta sous un bec de gaz et me dit en se palpant le ventre: Vois-tu comme il est enflé? Puis, me prenant la main pour me faire tâter la dureté de l'enflure, il ajouta d'une voix que la peur altérait: Qu'est-ce que cela peut être? Depuis plusieurs semaines, il était dans cet état et il n'avait révélé son mal à personne. Quelques jours après, je le conduisis à l'hôpital pour la visite du médecin. C'était une tumeur, ou plutôt un groupe de tumeurs, qui grossissait rapidement. On pouvait tenter une opération, mais Baptista n'y consentit pas, bien qu'il ne fût nullement résigné à mourir. Il traîna son mal pendant un mois ou deux encore, puis il fut contraint de se mettre au lit et il ne se releva plus. Quelle lente, quelle atroce mort! La courtière avait relégué le malheureux dans une sorte de débarras, dans une riche, obscure et étouffante, à l'écart pour ne pas entendre les gémissements. J'y allais tous les jours. Et Ciro voulait m'accompagner, voulait m'aider. Oh, si vous l'aviez vu, le pauvre enfant, comme il était courageux dans cette œuvre de charité accomplie à côté de son père. Pour y voir un peu mieux, j'allumais un bout de bougie et Clio m'éclairait. Et nous découvrions ce grand corps défoncé et geignant qui ne voulait pas mourir. Non, ce n'était point un homme atteint de maladie. C'était plutôt, comment dire, c'était plutôt, oh les mots me manquent, c'était une maladie personnifiée, une chose hors nature, un être monstrueux, vivant de sa vie propre et auquel étaient soudés les deux lamentables bras humains et deux lamentables jambes humaines, avec une petite tête décharnée, rougeâtre, répugnante. Quelle horreur! Quelle horreur! Et Ciro m'éclairait, et sous cette peau tendue, luisante comme un marbre jaunâtre, j'injectais la morphine avec une seringue rouillée. Mais assez, assez, paix soit à cette pauvre âme. Il s'agit maintenant d'arriver au point et de ne plus divaguer. La fatalité. Il s'était passé 10 ans, 10 ans de vie désespérée, de siècles d'enfer. Et un soir, à table, en présence de Ciro, Ginevra me dit inopinément « Tu sais, Fancer est de retour. » Je ne pâlis point, cela est sûr, car, voyez-vous, depuis longtemps, mon visage a pris une couleur invariable, que la mort même ne changera pas et que j'emporterai tel quel sous la terre. Mais je me rappelle que ma langue immobile se refusa à prononcer une seule parole. Elle me fixait de ce regard aigu, tranchant, qui m'inspirait toujours la même appréhension que donne à un poltron la vue d'une arme affilée. Je m'aperçus qu'elle regardait mon front, ma cicatrice. Elle souriait d'un sourire exaspérant, intolérable. Elle me dit en désignant la balafre, avec la conscience de me faire mal. « Mais tu l'as donc oublié, Vanzer. Pourtant, il t'a laissé sur le front un joli souvenir. » Alors, les yeux de Ciro se fixèrent à leur tour sur ma cicatrice. Et je lus dans ses yeux les questions qu'il aurait voulu m'adresser. Il aurait voulu me dire « Comment ne m'as-tu point conté autrefois que tu t'étais blessé en tombant? Pourquoi ce mensonge et quel est cet homme qui t'a balafré ?» Mais il baissa les yeux et se tut. Ginevra reprit « Oui, je l'ai rencontré ce matin. Il m'a reconnu immédiatement. » Moi, d'abord, je ne le reconnaissais pas, parce qu'il a laissé pousser toute sa barbe. Il ne savait rien sur notre compte. Il m'a dit qu'il te cherche depuis 2 ou 3 jours. Il veut te revoir, le cher ami. Sans doute, il a fait fortune en Amérique, du moins en jugé par sa tenue. En parlant, elle continuait de tenir les yeux sur moi, et elle avait toujours son sourire inexplicable. De temps à autre, Ciro me jetait un regard, et je sentais qu'il me sentait souffrir. Après une pause, Ginevra ajouta « Il va venir ce soir, tout à l'heure. » Dehors, la pluie tombait à flots, et il me sembla que ce bruit continu et monotone se produisait non pas au dehors, mais en moi-même, comme si j'avais avalé une forte dose de quinine. Et soudain, je perdis le sens du réel. Je fus enveloppé dans cette atmosphère isolante dont je vous ai déjà parlé. J'eus à nouveau la sensation très profonde de l'antériorité de l'événement actuel et de l'événement futur. Me comprenez-vous? Il me semblait que j'assistais à l'inévitable répétition d'une série de faits déjà arrivés. Était-ce nouveau ce que disait Ginevra? Était-ce nouveau cette anxiété de l'attente? Était-ce nouveau ce malaise que me donnaient les yeux de mon fils, qui par un mouvement sans doute involontaire se tournait trop souvent vers mon front, vers cette maudite cicatrice? Non, rien de tout cela n'était nouveau. Tous trois, autour de la table, nous gardions le silence. Le visage de Ciro exprimait une inquiétude insolite. Ce silence avait en soi quelque chose d'extraordinaire, une signification profonde et très obscure que mon ami ne parvenait pas à pénétrer. Tout à coup, la sonnette sonna. Mes regards et ceux de mon fils se croisèrent. Ginevra me dit « C'est Vanzer, va donc ouvrir. » J'allais ouvrir. Mes membres accomplissaient l'acte, mais la volonté de l'acte n'était point en moi. Vanzer entra. Est-il besoin de vous décrire la scène, de vous répéter ses paroles? Mais dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fit, dans ce que nous dîmes et dans ce que nous fîmes, il n'y eut rien d'extraordinaire. Deux vieux amis se revoient, s'embrassent, échangent les questions d'usage et les réponses d'usage. Ce fut tout en apparence. Il portait un grand manteau imperméable avec un capuchon tout humide de pluie, luisant. Il paraissait plus grand, plus gros, plus impérieux. Il avait trois ou quatre bagues au doigt, une épingle à la cravate, une chaîne d'or. Il parlait sans embarras, comme un homme sûr de lui-même. Était-ce bien là le voleur, revenu dans son pays sous le couvert de la prescription? Entre autres choses, il me dit en m'examinant, « Ah, tu as beaucoup vieilli. Madame Ginevra, au contraire, est plus fraîche que jamais. » Il examina Ginevra en clignant un peu des paupières avec un sourire sensuel. Déjà, il la désirait, il était certain de la posséder. « Parle franchement, ajouta-t-il, n'est-ce pas moi qui ai arrangé ton mariage? C'est moi, positivement, tu te rappelles, tu te rappelles !» Il se mit à rire. Ginevra aussi se mit à rire. Et moi aussi, j'essayais de rire. C'était parfaitement entré dans le rôle de Batista, à ce qu'il paraît. Le pauvre Batista, que Dieu ait son âme, m'avait laissé en héritage cette façon de rire convulsive et stupide. Que Dieu ait son âme. Cependant, Chiro regardait sans cesse sa mère, l'étranger et moi. Et lorsque son regard se posait sur Fanzer, il prenait une expression de dureté que je ne lui avais jamais vue. « Cet enfant te ressemble beaucoup, continua-t-il. Il te ressemble plus qu'à sa mère. » Et il étendit la main pour lui caresser les cheveux. Mais Chiro fit un bond et évita cette main par un écart de tête si violent et si farouche que Fanzer en demeura interdit. « Tiens !» cria la mère. « Tiens, mal élevé !» Et elle lui appliqua un soufflet retentissant. « Emmène-le, vite, emmène-le » m'ordonna-t-elle, pâle de colère. Je me levai, j'obéis. Chiro tenait le manteau sur la poitrine, mais il ne pleurait pas. À peine entendis-je que ses dents serrées grinçaient. Quand nous fûmes dans notre chambre, je lui relevai la tête du geste le plus caressant que je pus trouver, et je vis sur sa pauvre joue maigre l'empreinte des doigts, la tache rouge du soufflet. Les larmes m'aveuglèrent. « Cela te fait mal ?» dit. « Cela te fait très mal ?»« Chiro, Chiro, réponds-moi. « Cela te fait beaucoup de mal ?» demandai-je, en me penchant avec un désespoir de tendresse sur cette pauvre joue outragée que j'aurais voulu me baigner, non pas de mes larmes, mais de je ne sais quel baume précieux. Il ne répondait pas. Il ne pleurait pas. Mais jamais, jamais je ne lui avais vu cette physionomie dure, hostile, presque sauvage, ce front plissé, cette bouche menaçante, ce teint livide. « Chiro, Chiro, réponds-moi, mon enfant, réponds !» Il ne répondait pas. Il s'écarta de moi, s'approcha de son lit, commença à se déshabiller en silence. Je me mis à l'aider avec des gestes presque timides, presque suppliants, et je me sentais mourir à la pensée qu'il avait aussi quelque chose contre moi. Je m'agenouillais devant lui pour délacer ses chaussures, et je m'attardais longtemps dans cette attitude, prosterné à ses pieds sur le plancher, mettant à ses pieds l'offrande de mon cœur, d'un cœur lourd comme une masse de plomb, et qu'il me rendait impossible de relever jamais. « Papa, papa !» éclata-t-il à l'improviste en me saisissant aux tempes. Et il avait aux lèvres l'angoissante question. « Mais parle, parle donc » suppliai-je, toujours agenouillé à ses pieds. Il s'arrêta, ne dit plus rien, monta sur son lit, se glissa sous les couvertures, enfonça la tête dans l'oreiller, et un instant après, il commença à claquer les dents, comme il faisait certains matins d'hiver lorsqu'il gelait. Mes caresses ne le calmaient pas, mes paroles ne lui faisaient aucun bien. « Ah, monsieur !» Il a mérité le ciel. Celui qui a éprouvé ce que j'éprouvais pendant cette heure-là, mais ne se passa-t-il qu'une heure? À la fin, il me sembla que Chiro se tranquillisait. Il ferma les yeux comme pour dormir. Son visage se recomposa petit à petit. Son tremblement cessa. Je restai à côté de lui, du lit, immobile. Dehors, la pluie tombait toujours. Par intervalles, une rafale plus impétueuse secouait les vitres. Et Chiro ouvrait les yeux tout grands, puis les refermait. Je lui répétais chaque fois, « Dors, dors, je suis là, dors, mon cher enfant !» Mais moi, j'avais peur. J'étais incapable de réprimer ma peur. Autour de moi, sur moi, je sentais une menace terrible. Et je répétais chaque fois, « Dors, dors !» Un cri aigu, perçant, éclata sur nos têtes. Et Chiro se redressa d'un bond sur son lit, se cramponna à mon bras, haletant, terrifié. « Papa, papa, tu as entendu ?» Et tous deux, serrés l'un contre l'autre, oppressés par la même épouvante, nous écoutâmes, nous attendîmes. Un autre cri plus long, comme d'une personne assassinée, nous parvint à travers le plafond. Et ensuite un autre cri, plus long, plus déchirant encore, un cri que je reconnus, que j'avais entendu déjà en une nuit lointaine. « Mais calme-toi, calme-toi, n'aie pas peur. C'est une femme qui accouche à l'étage d'en haut. Tu sais, Madame Bedetti, calme-toi, Chiro, ce n'est rien. » Mais les hurlements continuaient, traversaient le mur, nous transperçaient le tympan de plus en plus brutaux. C'était comme l'agonie d'une bête mal égorgée par le boucher. J'eus la vision du sang. Alors, par instinct, nous nous bouchâmes tous deux les oreilles avec les mains, en attendant le terme de cette agonie. Mais les hurlements cessèrent. La rafale de pluie recommença. Chiro se blottit sous les couvertures, ferma de nouveau les yeux. Je répétais, « Dors, dors, je ne bougerai pas !» Il s'écoula un temps que je ne saurais préciser. J'étais en la puissance de mon destin, comme un vaincu est en la puissance d'un vainqueur inexorable. Désormais, j'étais perdu, inexorablement perdu. « Viens, Giovanni, Valser s'en va !» Oh, la voix de Ginevra ! J'eus un sursaut. Je remarquai que Chiro aussi avait tressailli, mais sans remuer les paupières. Il ne dormait donc pas. Avant d'obéir, j'eus une hésitation. Ginevra ouvrit la porte de la chambre et répéta, « Viens, Valser s'en va !» Je me levai, je sortis de la chambre tout doucement, avec l'espérance que Chiro ne s'en apercevrait pas. Lorsque je reparus en présence de cet homme, je lus clairement dans ses yeux l'impression que je lui fis. Je devis faire l'effet d'un mourant qu'une force naturelle maintiendrait encore sur ses jambes. Mais il n'eut point pitié de moi. Il me regardait, il me parlait, de la même façon que jadis. C'était un maître qui avait retrouvé son esclave. Moi, je pensais, oh, pendant leur entretien, qu'auront-ils dit, qu'en auront-ils fait, qu'auront-ils comploté? J'observais un changement chez l'un et chez l'autre. La voix de Ginevra, quand elle lui adressait la parole, n'avait plus le même accent qu'auparavant. Et quand l'œil de Ginevra se posait sur lui, il se couvrait d'un voile, de ce voile. « Il pleut trop fort, dit-elle, tu devrais aller chercher une voiture. Vous comprenez ? » C'était un ordre qu'elle me donnait. Manzer ne protesta pas. Il lui semblait tout naturel que j'allasse lui chercher une voiture. Ne venait-il pas de me reprendre à son service? Et c'est à peine si je tenais sur mes pieds. Et certainement, ils voyaient bien tous les deux que j'avais grand-peine à me soutenir. Cruauté inconcevable, mais que faire? Refuser? Choisir justement cette minute-là pour me révolter? J'aurais pu dire, je me sens malade, mais je me tue. Je pris mon chapeau et mon parapluie et je sortis. L'escalier avait déjà ses becs de gaz éteints. Mais dans les ténèbres, je voyais une multitude de lueurs. Et dans mon cerveau, se succédaient avec une rapidité d'éclair des pensées étranges, absurdes, incohérentes. Je m'arrêtai un instant sur le palier, parce que, à travers les ténèbres, je croyais sentir l'approche de la folie. Mais ce ne fut rien. J'entendis distinctement le rire de Ginevra. J'entendis le bruit que faisaient les locataires d'en haut. J'allumai une allumette, je descendis. Au moment où j'allais sortir dans la rue, j'entendis la voix de Chiro qui m'appelait. Comme pour le rire, comme pour les bruits, j'eus vraiment une sensation réelle. Je retournai en arrière, je remontai l'escalier rapidement, avec une facilité inexplicable. « Déjà revenu ?» s'écria Ginevra en me voyant reparaître. Le grand essoufflement m'empêchait de parler. Je balbutiai enfin avec désespoir. « Oh, impossible! Il faut que j'aille dans ma chambre. Je me sens malade. » Et je courus auprès de mon fils. « Tu m'as appelé ?» lui demandai-je bien vite en ouvrant la porte. Il était assis sur son lit et semblait aux écoutes. Il répondit, « Non, je ne t'ai pas appelé. » Mais je crois qu'il ne dit point la vérité. Mais peut-être m'as-tu appelé en rêve. Est-ce que tu ne dormais pas tout à l'heure ? Non, je ne dormais pas. Il me regardait inquiet, soupçonneux. Mais qu'as-tu toi-même ? Me demanda-t-il à son tour. Pourquoi es-tu essoufflé? Qu'as-tu fait? Non, sois tranquille, Chiro, suppliai-je en évitant de répondre et en le couvrant de caresses. Me voici près de toi, ne le bouge pas. Dors maintenant et dors. Il se laissa retomber sur l'oreiller avec un soupir. Puis, pour me faire plaisir, il ferma les yeux et fit semblant de dormir. Mais au bout de quelques minutes, il les rouvrit, me les fixa grands ouverts au visage et dit avec un indéfinissable accent « Il n'est pas encore parti !» Depuis cette nuit-là, le pressentiment tragique ne me quitta plus. C'était une espèce d'horreur vague, très mystérieuse, qui se condensait au plus profond de mon être, là où la lumière de la conscience ne pouvait pas pénétrer. Parmi tant d'abîmes que j'avais découverts en moi, celui-ci demeurait inexplorable et apparaissait effrayant entre tous. Sans cesse, j'avais l'œil sur lui. J'en sondais la profondeur avec une effroyable angoisse, avec l'espérance qu'un éclair subit l'illuminerait, me le révélerait tout entier. Parfois, il me semblait que petit à petit, je sentais monter l'objet inconnaissable, que je le sentais s'approcher des régions de la conscience, les toucher presque, les affleurer. Puis tout d'un coup, il se précipitait au fond et replongeait dans l'ombre, en me sentant un trouble extraordinaire et jamais éprouvé. Me comprenez-vous? Pour me comprendre, imaginez, monsieur, imaginez que vous êtes au bord d'un puits dont vous ne pouvez mesurer la profondeur. Ce puits est éclairé jusqu'à un certain niveau par la lumière naturelle. Mais vous savez que plus bas, dans les ténèbres, il se cache une chose inconnue et terrible. Vous ne la voyez pas, mais vous avez la sensation qu'elle se meut confusément. Et petit à petit, cette chose monte et elle arrive aux limites de la pénombre. Vous ne parvenez pas encore à la distinguer. Encore un peu, et vous allez la voir. Mais la chose s'arrête, se recule, se dérobe. Elle vous laisse anxieux, déçu, atterré. Non, non, des enfantillages. Vous ne pouvez pas comprendre.